Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés, prêt à nous conseiller, à nous faire du bien. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Au sommaire, aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler de bonheur, mais surtout de bonheur à la danoise. Savez-vous que dans les classements des pays les plus heureux, c'est bien souvent ce pays, le Danemark, qui arrive en tête. Alors comment l'expliquer? Le secret de ce peuple serait peut-être dans le hygge, je ne sais pas si je le prononce bien, on verra tout à l'heure, une sorte de philosophie de vie, un mot qui n'existe même pas d'ailleurs dans notre langue, mais on va tenter de vous expliquer de quoi il s'agit. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous recevrons Maline Ridal, elle est autrice du livre « Heureux comme un Danois, les 10 clés du bonheur » aux éditions J'ai lu. Ensuite, dans notre chronique « Les mots du quotidien », nous ferons un point sur le pouvoir du don. Et oui, le docteur Jimmy Mohamed nous expliquera en quoi donner du temps, de l'attention ou même un peu d'argent à une association, pourquoi pas, est extrêmement bénéfique pour celui qui fait ce don, justement. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle nous parlera de libido et d'alimentation.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Yves. Écoutons-la.
Oui, bonjour, c'est Yves à l'appareil. Est-ce que j'écoute l'émission d'abord tous les matins, très tôt, puisque je ne peux l'écouter qu'à 4h15. Bon, ma question est, quelle différence il y a entre coloscopie et fibroscopie? Merci beaucoup et puis j'attends votre message. Ciao.
Voilà, merci Yves pour votre question. Alors Jimmy, moi la différence entre, pour moi en tout cas la différence entre les deux, c'est un par en haut, un par en bas, je me trompe?
Oui, effectivement, la coloscopie, la fibroscopie, c'est un peu l'iPhone des gastro-entérologues, ils s'amusent avec, ça permet de voir ce qui se passe dans la bouche, par le haut, c'est la fibroscopie, ou par le bas, avec au niveau de l'anus, la coloscopie. Et parfois on fait l'un ou l'autre, ou les deux en même temps.
Ah génial, alors on va prendre la fibroscopie d'abord. Pour quelles raisons on peut avoir besoin de passer une fibroscopie, donc par la bouche?
Alors la fibroscopie, elle sert à explorer le tube digestif par le haut, et donc on va regarder votre œsophage. Si jamais on pense que vous avez une ulcération, un reflux qui a pu irriter cet œsophage et donner ce qu'on appelle une œsophagite, eh bien ensuite on va pouvoir descendre un peu plus bas, regarder ce qui se passe au niveau de votre estomac. Est-ce qu'il y a un ulcère qui peut saigner?
On descend un fil donner... avec une caméra, quoi, c'est
exactement
ça,
ouais. La caméra descend le long de d'abord dans la gorge et puis dans l'œsophage, puis l'estomac. Et puis on peut aussi faire des actes. Si à un moment quelque chose saigne, on peut arrêter le saignement. On peut faire aussi des biopsies. Et parfois, on peut tout simplement compléter ou pas par la coloscopie.
D'accord, alors là on est toujours sur la fibroscopie, rassurez-nous, c'est sous anesthésie, ça fait pas mal. Hein.
Alors vous avez le choix, il est possible de faire une fibroscopie sans anesthésie générale, il faut être extrêmement courageux, certains le font parce qu'ils ne veulent pas d'anesthésie.
Vous ne pourriez pas par exemple.
Oh non, je préfère, là, je préfère commandant, mais faites ce que vous voulez de moi ensuite à ce moment-là. Mais certains acceptent de le faire sans, c'est pas une partie de plaisir et parfois certains patients ont des contre-indications à l'anesthésie quand ils sont trop fragiles. Et donc quand c'est un peu en urgence, eh bien on fait sans anesthésie.
D'accord, et la coloscopie pour le coup, dans quelle indication? Vous avez dit, donc là c'est le tube par en bas, on rentre par l'anus, hein, typiquement. On va regarder quoi?
Alors on va explorer toute la partie du côlon qui va aller en partant de la marge anale au rectum, le côlon droit, le côlon gauche, le côlon transverse,
et on va chercher... Parce qu'il y a tant de côlons que ça, gauche, droite.
Énorme circuit en quelque sorte, et donc on va regarder s'il y a des polypes, s'il y a un saignement, s'il y a de l'irritation, et là encore on peut faire des gestes avec une biopsie ou couper un petit truc qui dépasse, notamment un polype. Donc c'est à la fois diagnostique mais aussi parfois thérapeutique, car si vous avez un polype, on vous l'enlève et puis on n'en parle plus.
On fait la coloscopie, alors par en bas, moi j'imagine qu'on endort, mais vous avez dit encore une fois c'est pas obligatoire.
Ah si si, la coloscopie, je vous assure.
On s'est toujours endormi, d'accord.
Ah oui, je vous assure.
On n'est pas hospitalisé, on peut rentrer à la maison après.
Vous rentrez le matin, vous sortez juste après. Mais la coloscopie, il faut toujours une anesthésie générale. Imaginez un tuyau qui va dans votre côlon, jusqu'au côlon droit,
très
ça
bien.
Fait quasiment un mètre, donc il faut vraiment
vaut
y aller.
Dormir.
Donc
il vaut mieux dormir. Merci beaucoup Jimmy. On va passer à une autre question d'auditeur, c'est celle de Brigitte, on l'écoute.
Bonjour Jimmy et Mohamed et Mélanie. Je vous appelais pour que vous nous expliquiez le fonctionnement des vaccins à ARN messager par rapport aux vaccins classiques. Je vous remercie.
Alors Jimmy, vaccins à ARN messager, ce sont ces vaccins Covid de nouvelle génération. Est-ce que vous nous expliquez ce que veut dire donc vaccin à ARN messager?
C'est extrêmement simple, c'est vraiment une révolution. On a réussi à séquencer le code génétique du coronavirus. Donc on sait exactement tout recréer. Et justement, on a au niveau de ce coronavirus une petite protéine qu'on appelle la protéine S-Spike. Cette protéine Spike, elle va s'attacher sur nos cellules et nous rendre malades. Eh bien, on a réussi à séquencer uniquement cette protéine Spike qu'on va reproduire avec de l'ARN, qu'on va vous injecter. Et ensuite, votre système immunitaire, votre propre organisme, il va recréer cette protéine spike, cette protéine S, avec l'ARN qu'on a donné. Sauf qu'une fois que vous avez cette protéine, eh bien, on va se dire, tiens, le corps va penser qu'il est malade, alors qu'il n'a pas le coronavirus, il a simplement la petite enveloppe. Eh bien, vous allez créer des anticorps de façon naturelle, comme ça, le jour où vous rencontrez vraiment le coronavirus, cette protéine spike va être immédiatement être reconnue, et donc vous allez créer des anticorps et ne pas tomber malade. Et surtout, on s'est rendu compte de l'efficacité, vous ne ferez pas de forme grave et vous ne mourrez pas du coronavirus. Et donc, on a un vaccin pour une maladie qui nous embête en ce moment.
Très bien. Et juste pour rappel, jusque-là, on disposait de nombreux vaccins, autres, hein, je parle de la coqueluche, la rougeole, enfin tout ce que vous voulez, il y a beaucoup de vaccins sur le marché. C'est quoi la différence pour le coup? Ils contiennent quoi ces vaccins-là?
Alors souvent, les vaccins classiques, on se sert d'un petit virus secondaire, un adénovirus qui va servir en quelque sorte de transporteur pour justement inactiver le virus et développer une réaction immunitaire. Alors que là, on vous injecte juste la séquence nécessaire pour que vous-même, votre organisme fasse le travail. Et surtout, en cas de résistance, eh bien, on peut créer un nouveau vaccin beaucoup plus vite. Et les vaccins ARN sont beaucoup plus efficaces. Et donc, même si l'efficacité diminue sur le variant sud-africain ou brésilien, eh bien, ça sera quand même suffisant. Donc, c'est vraiment l'avenir. Et peut-être que si on doit faire des rappels, ce sera avec ces vaccins notamment.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Brigitte qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité du jour en studio avec nous. C'est vous, Maline Ridal. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes autrice du livre Heureux comme un Danois, les 10 clés du bonheur aux éditions J'ai lu. Et c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui. On a besoin de vous vraiment, hein, mais tous les gens qui nous écoutent pareil. Le bonheur, c'est notre obsession. Et il se trouve que dans les classements qui sortent régulièrement sur les pays les plus heureux, eh bien, le Danemark arrive très souvent en tête. Je crois que l'une de vos recettes, c'est le, alors moi je vais dire le HUG, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais ça s'écrit I-H-Y-G-G-E, hein, c'est ça?
Oui.
Expliquez-nous ce que c'est.
Alors le HUG, c'est une manière d'être ensemble. C'est quelque chose qu'on pratique effectivement tous les jours au Danemark. La traduction en français, ça sera du cocooning. Effectivement, c'est des moments où on met traditionnellement des bougies, on se met avec des vêtements confortables. Mais ça, c'est plus la décoration. Donc évidemment, on peut le reproduire partout dans le monde. Mais le sens vraiment de ce concept qu'on donne comme une des raisons du bonheur, c'est le être ensemble. C'est vraiment de ralentir, faire des pauses dans la journée et surtout le soir pour créer des moments où on se connecte avec soi, mais aussi avec l'autre. Mmh. Et ces moments-là sont des moments où on trouve, où on cherche tout ce qui nous lie et pas ce qui nous différencie. Donc, par exemple, ce n'est pas des moments où vous allez vous vanter de vos exploits, dire que vous êtes le meilleur, mais c'est vraiment des moments où on essaye de faire l'inclusion de tout le monde.
On est tous inclus dans le coronavirus en ce moment.
Absolument.
Justement,
ça donne occasion à faire beaucoup de moments de hugue, donc de créer ces moments de connexion. Et ce qui est très important, c'est évidemment pas du tout adapté avec le multitasking, le iPhone, et on fait plusieurs choses à la fois. C'est vraiment de se connecter avec soi et avec l'autre et passer un moment de pleine conscience.
Et la base, justement, je crois que c'est les bougies. Ça paraît un peu surréaliste, mais pas simplement une petite bougie, il en faut plusieurs. Et pourquoi c'est si important que ça, notamment au Danemark? C'est parce qu'il fait nuit à 15h et qu'il fait froid qu'on prend des bougies, ou finalement il y a un vrai truc qui se passe?
Alors la lumière de la bougie effectivement est claire, et au nord il fait la nuit tombe quand même à 15h l'hiver, hein. Mais c'est aussi un concept qui marche l'été, donc le concept passe pas par la bougie, mais ça donne de la chaleur, ça donne de la lumière quand il fait sombre, donc c'est un élément, enfin on le voit aussi en France, hein, la cheminée, ou même quand on met des bougies, ça met une vente de chaleur, bien sûr,
ouais.
Oui, c'est après j'ai toujours un peu, je me méfie un peu de dire qu'en achetant des bougies et des plaids et des chaussettes chaudes, que vous allez créer du bonheur. Parce que le concept est vraiment dans le fait de ralentir, de faire une pause et d'être ensemble.
Ça remonte à quand le HUG au Danemark? Ça a toujours existé, ou est-ce qu'il y a eu un début de cette tendance-là, je ne sais même pas comment on peut dire, cette philosophie de vie, hein?
Ça n'a pas été identifié. Après, on pourrait imaginer ou soupçonner que comme c'est des pays nordiques, il faisait froid, donc on se ressemble plutôt à l'intérieur. Mais vous savez, le Danemark, c'est un pays protestant, c'est le protestantisme, c'est les communautés, c'est de se ressembler, c'est les... Donc ce moment-là, à l'intérieur, le soir, d'être ensemble, en tout cas moi depuis mon enfance, pas, j'ai pas 100 ans, mais c'est...
Et vos parents ont été élevés là-dedans aussi, vous?
Mes parents aussi ont été élevés dedans, de moindre degré. Mais de toutes les façons, le fait qu'on est devenu conscient de ça au Danemark, ça date de que ce livre est sorti il y a 3 ou 4 ans sur le hygge. Moi, j'en parlais dans le mien, mais il y a un livre qui est sorti, qui a été vendu des millions d'exemplaires, et c'est devenu une vraie tendance dans le monde.
Donc on utilise des bougies. Est-ce qu'une boisson chaude, ça peut aussi aider?
Ouais, vous avez mis une petite chemise un peu chaude. Elle a l'air douillette aujourd'hui. Elle est dans le sujet, hein, je trouve, parce qu'elle a l'air bien douillette. En
est-ce
tout cas.
Qu'il faut en plus justement un petit thé chaud, un chocolat chaud? Est-ce que ça peut vraiment procurer du plaisir? Et je sais pas, on fait un petit gâteau en plus. Parce qu'on rentre un peu dans les clichés là, mais vraiment, ça fait du bien.
Ça fait du bien et alors vous mangez un gâteau et vous buvez un thé chaud, ça fait du bien à la base. Si en plus vous êtes connecté avec les gens, avec une forme de bienveillance en cherchant ce qui nous lie ensemble et pas ce qui nous différencie, c'est pas des moments de grands débats, c'est des moments c'est des moments bienveillants, doux. Et ça, je pense que la douceur, c'est quelque chose dont on a besoin. Le regard bienveillant de l'autre, où on n'essaye pas de se comparer ou gagner sur l'autre. Donc, je pense que c'est cette douceur-là.
Moi, le thé chaud, je l'aime bien avec des petits gâteaux. Je crois que vous avez des petits gâteaux du bonheur. C'est quoi ces petits gâteaux danois du bonheur?
Il y a plein de petits gâteaux. Alors, je crois que vous faites référence à ce cannelle, c'est ça?
Oui, c'est ça. Moi, je les adore.
Oui, il y en a notamment. Après, c'est... À nouveau, ce sont des accessoires. Il y en a même les sucreries.
La cannelle, ça fait du bien, hein, c'est vrai.
Ça fait du bien, le thé fait du bien. Après, je pense que tous ces éléments-là, ça reste accessoire par rapport au fait de se dire... Le mot « hygge », c'est quelque chose qu'on utilise dans la langue danoise à la fréquence du mot « sympa » en français. Ah, donc, oui. En fait, on dit dans toutes les phrases « c'était sympa, il est sympa, il fait un temps sympa enfin, », on peut vraiment l'appeler. Et nous, on utilise ce mot « hygge ». Il y a vraiment quelque chose de très chaleureux dans le mot.
Est-ce que la chaleur passe aussi par des moments où on dit « je t'aime » à tes proches, tout simplement? On oublie parfois de le dire, d'ailleurs.
Ah ben ça, c'est très important. Après, ce n'est pas particulièrement inclus dans le hygge, mais il y a inclus dans le bonheur, ça c'est sûr et certain. On le sait maintenant, la plus grande étude réalisée sur le bonheur et le bien-être sur une vie, sur 75 ans, c'est celui de Howard University, et donc sur 728 hommes. Et la conclusion de cette grande étude, c'est tout simplement que l'élément qui a le plus d'influence sur notre bonheur, c'est la qualité de nos relations. Et donc le hygge, typiquement, participe à cette qualité de relation parce qu'on est ensemble et on est présent avec l'autre et bienveillant.
Comment vous vous habillez, vous, dans ces moments-là de hygge? Je ne sais pas si je dis bien hygge, c'est ça? Il faut mettre un petit H, voilà.
Oui, non,
comment on s'habille? On fait ça, les petits, les grands, tout le monde peut participer, c'est ça?
Tout le monde participe, et d'ailleurs, c'est tout le principe, c'est que justement que tout le monde participe. Et on est habillé confortablement.
Tout simplement, j'imagine tout le monde a un pyjama doudou.
Voilà, oui, par exemple. Après, je pense qu'aujourd'hui, on arrive aussi à faire du hygge. L'été, la version, c'est plutôt, ça peut être de s'asseoir par terre, dans un parc, avec une bière à la bouteille.
Enfin, vous n'avez pas besoin de vivre à Copenhague pour pratiquer pour mettre en place le hygge.
Ah, ouais. Non. Mais enfin, tout ce que j'ai dit dans le livre sur le bonheur danois, moi, personnellement, je le pratique en France depuis plus de 20 ans. Donc, c'est bien la preuve que ça marche. Et c'est des habitudes à prendre. Parce que quand on dit le cocooning le dimanche soir, il y a un côté peut-être un peu repli sur soi avant la semaine où là, on va se recharger les batteries. Mais moi, depuis ce matin, je fais... trois moments de hygge.
Ah oui.
Ah oui.
Ah ouais, on va détailler ça. Maline, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous. 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus, on est dans le hygge aujourd'hui. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Alors notre invitée, c'est vous, Maline Ridal. Vous êtes autrice du livre Heureux comme un danois, Les 10 clés du bonheur aux éditions J'ai lu. Et c'est notre sujet du jour ce lundi. Alors justement, il faut savoir que dans la vie des Danois, la famille et les loisirs ont une place très importante, alors chez nous aussi, mais le travail ne fait vraiment pas tout, contrairement à nous les Français, hein, où c'est très très important la situation professionnelle. En gros, au Danemark, ça choque personne si le collègue de bureau s'en va à 15h parce qu'il va s'occuper de ses enfants.
Non, c'est même normal. Enfin, je veux dire, c'est une grande majorité des parents, d'ailleurs, partagent, hommes-femmes, enfin, père-mère, le fait de quitter vers 15h, 16h pour aller chercher les enfants.
Nous, ici, on nous dit, t'as pris la journée, intégré. Quoi. C'est plutôt ça.
Non, on a un vrai équilibre vie privée, vie professionnelle au Danemark qui est parfaitement accepté et aussi pratiqué par ceux qui dirigent, on va dire. Donc, ils montrent l'exemple que c'est autorisé. Donc, il y a des congés maternité et paternité, d'ailleurs, très longue, un an pour la femme.
Oui.
Et d'ailleurs, enfin, un an pour la femme. Et on peut le partager. La femme, je crois qu'elle a 16 semaines. Et donc, le reste peut être partagé entre
l'homme
le
ou
père
la femme,
et la
les
mère.
Deux conjoints, donc,
Alors, en France, on a découvert le télétravail en 2020 avec le coronavirus. Mais je crois qu'au Danemark, ça fait quelque temps déjà qu'on l'utilise.
Oui, parce que en fait, le Danemark, c'est le pays au monde qui a le taux de confiance le plus élevé. Et donc, cette confiance fait qu'on ne va pas surveiller les gens qui travaillent. S'ils ont besoin d'aller chercher les enfants, ils vont reprendre peut-être une heure de travail après, une fois qu'ils sont rentrés, ou qu'ils travaillent chez eux. Il n'y a pas de problème parce qu'on fait confiance. On traite des gens comme des adultes. Donc, cette confiance est vraiment au cœur de la compréhension à la fois au travail, pourquoi on pratique depuis longtemps le télétravail, et la flexibilité des horaires aussi.
Les patrons ne craignent pas que les employés se la coulent douce, quoi, en fait. C'est pas ça. Ils disent qu'ils feront bien leur travail à un moment donné.
Non, parce que la base, c'est vraiment... C'est 8 Danois sur 10 se disent faire confiance à l'autre, à l'inconnu dans la rue. Donc, encore
très
plus
loin de
quand
nous,
on
ça,
se connaît dans un lieu de travail. Donc ça, c'est structurant et c'est vraiment une des grandes explications, même du bonheur danois. Où moi, je parle plutôt de bien-être quand je parle de ça, mais parce que faire confiance à l'autre, ça simplifie les relations et puis ça donne aussi c'est un regard bienveillant, quelque part.
Alors, un autre aspect qui pourrait peut-être participer au bonheur que vous avez, vous, au Danemark. Jimmy, je suis sûre que vous allez confirmer, là-bas, il n'y a pas de bouchons.
Oh, quel rêve.
En voiture, donc ça pourrait vous rendre heureux, vous, ça, je sais.
Effectivement.
Comment ça se fait qu'il n'y a pas de bouchons?
Alors, il y a des bouchons des vélos. Parce que le moyen de transport le plus utilisé au Danemark, c'est le vélo. Donc, plus de 50% de la population danoise se déplace à vélo, qu'il pleuve, qu'il neige. Et à Copenhague, c'est plus de 68%. Même les parlementaires vont au Parlement danois à vélo. Donc, c'est parce que les gens se placent à vélo, il y a évidemment un peu moins de problèmes pour se garer avec son vélo. Mais bon, je vois quand même des petits bouchons quand même à Copenhague. Mais bon, c'est
léger par rapport à Paris.
Alors, tout à l'heure, on parlera des pouvoirs du don sur notre cerveau, mais je crois que les Danois sont aussi les champions du bénévolat. Ça paraît assez incroyable, ça, je ne savais pas d'ailleurs.
En fait, les Danois adorent les associations et ils ont tous une association qui sont créées où ça peut être pour être coach de sport ou de foot pour les jeunes. Et moi, dans mon enfance, mon père, il était très actif aussi, et ma mère aussi. Moi, quand j'étais petite,
tout le monde est engagé
je jouais
dans
la
association,
musique dans
quoi,
des maisons retraitées. Oui, on est très investis. C'est la collectivité qui prône au Danemark. C'est ça qu'il faut comprendre dans les pays nordiques. C'est vraiment la collectivité. La volonté aussi de payer les impôts est très élevée. C'est vraiment
ça vous étonne hein, Jimmy aussi.
Alors le Danemark
c'est
un des pays les plus imposés au monde,
mais les gens sont contents,
ils sont contents de payer les impôts. 7 Danois sur 10 disent aimer payer les impôts, participer à la collectivité.
Ils ont des services derrière irréprochables aussi, il y a une qualité d'accès peut-être aux soins, aux infrastructures. Parfois, alors là, c'est de la politique, mais on se demande où part l'argent. C'est peut-être là le sentiment de frustration que les Français peuvent
Les Français
subir.
Sont frustrés, ils ne font pas confiance. Le taux de confiance en France est à 22%. Donc, c'est tout l'inverse. Donc, évidemment, quand on ne fait pas confiance, on va être frustré. Je ne suis pas sûre qu'on a des meilleurs services au Danemark par rapport à la France. Mais le rapport est différent par rapport à l'État et nos politiques et tous les systèmes.
Et donc, on est heureux de payer ses impôts au Danemark. Écoutez ça, franchement.
Les Danois se sentent comme faisant partie de ce projet collectif. Ils se sentent concernés et engagés dans le projet.
On la joue plus perso en France, peut-être.
C'est l'individualisme, et là, c'est la collectivité. Et soit quand on voit les gens qui se sentent victimes du projet ou juges du projet, mais pas responsables du projet, du coup, ils ne peuvent pas se sentir engagés.
Ou peut-être que le Danois n'aime pas l'argent, peut-être. Il a compris que ça ne rendait pas heureux, tout simplement. C'est peut-être parce qu'ils aiment moins l'argent, peut-être, que les Français.
Le Danemark reste un pays riche, bien sûr, mais c'est un des pays les plus égalitaires au monde, où les revenus sont le mieux distribuer et redistribuer les salaires bas et moins éloignés du haut salaire. Et donc, ce fait que ça soit égalitaire fait aussi que les gens se comparent moins. Il y a, de manière générale, un sentiment de justice et il y a une mobilité sociale qui est élevée au Danemark. Donc ça, c'est important aussi dans la compréhension.
Vous avez beaucoup parlé de la confiance des Danois. Ils ont confiance en l'autre, même dans l'inconnu dans la rue. Mmh. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est assez frappant. Il suffit de regarder vos prisons au Danemark.
Oui, absolument.
Elles sont ouvertes, c'est incroyable. Expliquez-nous.
C'est que cette confiance, effectivement, va très loin parce que quand on a commis l'échec, l'erreur et pas condamné, c'est plutôt l'apprentissage. Et même quand on a commis un crime au Danemark, deux prisons sur trois sont des prisons ouvertes.
Ça veut dire qu'on re-engage
donc la responsabilité, mais on redonne la confiance. Et donc, c'est pour aller travailler et après re-rentrer en prison. Mais le taux de récidive au Danemark est un des plus bas au monde. Il a 23%. En France, on a un taux de récidive à 59%. Donc, en fait, cette confiance sert à la collectivité à nouveau quand on traite les gens comme des adultes. Évidemment, pas tous les crimes peuvent aller dans cette catégorie. Mmh.
Mais ça aide, oui.
Vous écrivez aussi qu'une des clés du bonheur, c'est de ne pas avoir trop d'attentes. Et pour ça, vous prenez un exemple assez intéressant, c'est celui du championnat d'Europe de football, gagné en 92 par le Danemark. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Non, c'est parce que j'explique dans le livre qu'il y a, je crois que c'était, il y avait une étude qui avait été réalisée où il disait que peut-être comme le Danemark, ils sont perdus quasiment toutes les guerres et qu'on est devenu tout petit. Le Danemark, il y a 200 ans, c'était un grand pays, il y a eu les Vikings, etc. Et que du coup, comment on ne s'attend pas à grand-chose, on ne s'attend pas à être les meilleurs à gagner. On a gagné le championnat d'Europe en 92,
c'est une joie démultipliée.
Oui, ils étaient tellement contents. Enfin, moi, je m'en souviens, on était dans la rue, c'était incroyable. Là, on n'était même pas qualifiés. Hein. Donc, du coup, cette étude avait conclu par peut-être d'ailleurs le bonheur danois, c'est explique par le fait qu'ils sont tellement heureux d'avoir gagné en 92 que ça explique une partie du bonheur.
Le parallèle, c'est un peu avec l'Olympique de Marseille.
J'en étais
en fait.
Sûre, je le sentais venir.
Voilà ce qu'ils peuvent espérer.
Quand on attend plus rien,
gagner. Vous avez gagné une fois, voilà, l'histoire est derrière vous. Laissez le Paris Saint-Germain aller de devant.
Bon,
devant.
Ne pas avoir trop d'attentes au football ou dans le reste. Merci Mélanie, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Maline Riedel. Je rappelle que vous êtes autrice du livre Heureux comme un Danois, Les 10 clés du bonheur aux éditions J'ai lu. Et avec vous, on va s'intéresser maintenant aux jeunes Danois, aux petits. L'une des premières choses qu'on apprend aux enfants chez vous au Danemark, c'est l'égalité homme-femme. Votre mère, elle vous l'a fait comprendre à vous, je crois, aux alentours de 8 ans. Racontez-nous un petit peu cette histoire.
Quand on était tout petit, avec mon frère, effectivement, on a un an d'écart. Donc, ma mère, elle nous a expliqué que la maison, c'était un projet collectif. Et donc, elle nous avait fait un enfant de schéma avec des tâches à effectuer tous les jours. Il n'y avait aucune différence entre mon frère et moi dans les tâches. Donc, c'était les mêmes.
Il passe autant l'aspirateur que vous.
L'égalité était assez... c'était vraiment...
C'est une évidence.
Ouais. Et donc, cette participation à ce projet collectif... elle nous a appris depuis qu'on est tout petit. Et à l'école, on l'apprend aussi. La collectivité, à nouveau, le prendre joint de l'autre, c'est...
Être une femme ou un homme, ça n'a pas d'importance. Tout le monde est traité
pareil.
Non,
et puis, à la maison, quand mon frère avait des copains, il jouait à la guerre ou au cow-boy, etc. Ma mère, elle expliquait qu'il fallait qu'ils acceptent que je participe dans le jeu et au moins, si c'était un peu plus garçon violent, que j'avais le droit de rester dans la pièce et me sentir comme étant
garçons,
inclus. Pas pour être un garçon, mais c'est l'inclusion, en fait. C'est pas pour les filles. Et pareil, quand je jouais à la poupée avec mes copines, mon frère avait le droit d'être dans la pièce et aussi au moins se sentir comme
inclus dans ce jeu.
Oui.
Et est-ce que peut-être dans l'éducation, avec les profs, c'est aussi un impact? Ici, en France, souvent, on dit aux enfants ce qu'ils ne peuvent pas faire. J'ai le souvenir qu'on m'avait dit que je ne pourrais pas faire d'études de médecine, que c'est trop difficile pour moi. Alors que là-bas, au Danemark, est-ce que tout est possible? Chaque enfant, on lui révèle en quelque sorte son potentiel et il n'y a pas tellement, non pas de limites, mais on les encourage à aller de l'avant.
Le but principal de l'éducation nationale au Danemark, c'est de développer la personnalité de l'enfant. Ça, c'est le but de l'école. Et donc, il y a une valorisation de tous les matières à l'école. Donc, il y a une valorisation d'un enfant qui est manuel, mécanique, musical, évidemment, sportif, mais il n'y a pas une survalorisation de l'intellect. Donc, on ne va pas entendre dire à une petite fille ou à un garçon à 7-8 ans qu'ils sont nuls parce qu'ils ne sont pas bons en maths ou en langue. Et donc, cette valorisation de tous les talents fait que la probabilité qu'un enfant danois finisse par vivre sa vie et pas juste une vie, est beaucoup plus grande. Et donc, plus on est aligné ou proche de ce qu'on est à l'intérieur, plus on se sent valorisé pour qui on est dans la vie, plus on va vivre heureux. Et ça, c'est extrêmement important pour comprendre donc, ce sentiment de se sentir valorisé dans ce projet collectif des petits Danois. Et même à l'âge de 6 ans, on commence ce qu'on appelle l'heure de la classe, mais on appelle ça c'est une forme de cours d'empathie à l'école danoise, où on apprend aux enfants d'identifier leurs émotions et comprendre celles des autres. Et donc, créer ce lien humain, quelque part, et valoriser tous les talents.
En France, on sait qu'on pousse, on a tendance à pousser nos enfants à faire des métiers où ils gagneront le plus d'argent possible quand ils seront grands. Certains, à tort, bien sûr, diront « Ah, si tu ne travailles pas à l'école, tu vas finir avec tel métier ou tel métier qui donc serait peu valorisant. » Au Danemark, ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas de métier qui va... On ne va pas pousser son enfant absolument à gagner beaucoup d'argent, à réussir sur le plan professionnel.
Non, ce n'est pas ça que le but principal. C'est vraiment de développer la personnalité de l'enfant et valoriser tous les talents pour que l'enfant se sente valorisé. On parle du syndrome de l'éboueur heureux, par exemple, au Danemark, parce que l'éboueur tient un rôle absolument essentiel pour le projet collectif. Si personne enlève les poubelles, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, les Danois le savent, le valorisent pour, et l'éboueur, à son tour, se sent valorisé dans ce projet collectif. Et donc, et ça, on a appris aussi à l'école. Et vous avez aussi plus de deux tiers de jeunes Danois qui commencent à travailler à l'âge de 13 ans pour gagner leur propre argent de poche. Moi, quand j'étais petite ou jeune, au lycée, je faisais le ménage dans un bureau des experts comptables. Et ça, c'est pas parce qu'on avait des problèmes d'argent à la maison, mais parce que j'apprenais à gagner de l'argent. Et donc, le fait de faire le ménage...
Et nettoyer, c'est pas un gras, c'est ça.
Du tout. Et je bénis mes parents et le pays parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas considérer qu'il y a un sous-métier. Ce sont des métiers utiles à ce projet collectif. Et c'est extrêmement important parce que l'élitisme, pour ça, n'est pas une bonne recette de bonheur par rapport à ce regard sur l'autre, par rapport au fait de se comparer, se sentir utile et valorisé dans la société. C'est là où ça peut être dangereux.
En parlant d'école, au Danemark, à la fac, les élèves sont même payés pour aller étudier. Ça paraît surréaliste, mais ça les pousse peut-être à réussir et à s'investir un peu plus.
Absolument. Enfin, non, pas tellement. Mais ça crée surtout ce sentiment d'égalité de chance. Et le Danemark a la mobilité sociale, enfin une des mobilités sociales les plus élevées au monde. Les chiffres de l'OCDE parlent de 2 générations au Danemark. Donc pour changer de classe sociale, en France, c'est 6 générations.
Ah oui.
C'est énorme. Et donc, ce sentiment de dire que j'ai envie de faire des études. L'école et les études sont gratuites, mais on me paye pour le faire 850 euros à peu près.
Quelques étudiants en France qui aimeraient bien pouvoir...
C'est plus
indépendant
que
bien sûr. Des revenus des parents, c'est-à-dire qu'on redistribue les cartes.
Ouais.
Et donc, souvent, les enfants des familles aisées, on va dire, mais ils ne sont pas libres de choisir ce qu'ils veulent faire. Ils vont faire ce que les parents disent. Et donc, du coup, le fait que ça soit pour tout le monde fait que les gens, ils ont plus de probabilités à trouver vraiment leur vie.
Et puis ils doivent quitter le nid parental plus tôt aussi.
On quitte à 18 ans.
Ouais, c'est ça, tout
le monde,
en fait.
On quitte à 18 ans pour vraiment 80% des jeunes Danois.
On devient autonome plus vite, en fait.
Oui, voilà, on prend notre indépendance. Et responsable aussi. C'est cette autonomie, cette responsabilité.
Et si on travaille depuis qu'on a 13 ans, qu'on est payé à faire des études, effectivement, on comprend qu'on mûrit un peu plus vite.
Et puis, surtout, 100% des Danois qui travaillent sont imposables. Donc, il y a 100%, même quand on est étudiant, on est imposable.
Et
parce
heureux
que
de payer ses impôts,
c'est cette
même quand on
collectivité,
est étudiant.
Le fait de participer à un projet qui est important pour nous. Et ça, ça donne aussi un sentiment de... en forme de sens, d'être fier de faire partie de quelque chose.
Même si ici, on paye tous des impôts, même indirects, comme la TVA, même quand on n'a pas beaucoup de revenus, on en paye. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la sexualité est assez, non pas ouverte, mais libre de parole au Danemark. Et même à l'école, on a des cours de sexualité, ça paraît assez...
C'est pas juste on apprend à faire des bébés, on parle de sexualité vraiment à
l'école.
Oui,
bien sûr, oui.
D'accord.
Oui, parce que c'est pas un tabou, et ça ne devrait pas l'être. Donc, il y a une... Maintenant, aujourd'hui, je crois que c'est une semaine surtout, où toute la semaine, ils parlent de ça, de tous les points de vue. Ce qui avait choqué il y a quelques années dans la presse, les gens étaient choqués parce qu'ils montraient des films porno dans ces enseignements. Pas un film d'une heure, mais quelques
pour
passages.
Discuter, ouais.
Mais pour dire surtout que ça ne se passe pas comme ça.
Bien sûr.
Donc, cet réalisme...
Ça, pourrait pas faire un truc pareil.
Il y a une
France,
pression
ouais.
énorme sur les jeunes aujourd'hui qui pensent que ça se passe comme ça. Parce qu'en France, notamment, plus de 60% de jeunes de 12 ans jusqu'à 18 ans, ils apprennent le sexe sur le site pornographique, il faut le savoir.
Ouais.
Donc ça, Il vaut mieux qu'on explique comment ça se passe et que ce n'est pas exactement comme dans le film.
Très bien. Merci beaucoup, Maline, de nous avoir accompagnés cet après-midi pour nous donner un aperçu de votre culture, de ce qui fait que votre pays, le Danemark, est souvent classé comme le plus heureux au monde. Alors, on va essayer de s'en inspirer, bien sûr. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Heureux comme un Danois, les 10 clés du bonheur » aux éditions J'ai lu. Merci encore.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être, sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner tous les après-midi. À présent, on va passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et pour commencer, on va écouter cette question d'Arthur. Il a 24 ans, il nous a laissé sur notre répondeur. C'est sa question qui a motivé la séquence qui va suivre. On écoute.
Bonjour à tous. Alors, je sais que Jimmy avait parlé dans la matinale, c'est le fait de nénés, ça faisait du bien aussi bien à la santé et au cerveau, hein, je sais plus trop. Mais moi, je me questionnais savoir est-ce qu'il fallait donner justement son rein ou faire un don d'organe pour que, pour que on ait quelque chose qui est assis sur notre santé ou c'était simplement, peut-être quelques heures de bénévolat. Donc, est-ce que Jimmy pour nous rappeler un peu ce qui se passe dans notre corps concrètement?
Eh ben merci beaucoup pour votre réponse et je vous souhaite une bonne fin d'émission et une très belle journée.
Alors bon, je ne crois pas qu'il faille aller jusqu'au don de rein, même si c'est très important et c'est très bien de donner un rein. Ça doit avoir sûrement une efficacité. Mais Jimmy, on va parler du pouvoir du don avec vous. Vous en aviez déjà parlé effectivement dans la matinale d'Europe 1. Donner fait du bien notamment à quoi ? À notre cerveau, c'est ça ?
Oui, c'est vrai. Enrico Macias disait « donner,
il avait raison.
Dieu vous le rendra ». Mais en fait, voilà. Il avait raison, c'est un précurseur. Alors, donner nous ferait plus de bien que de recevoir des cadeaux. Ça paraît surréaliste. Mais on a fait des études qui à chaque fois confirment la même chose. Il y en a une assez simple qui consiste à donner à des étudiants pendant 5 jours. 5 dollars. Et ils ont deux possibilités. La première, c'est d'utiliser cet argent pour eux-mêmes en achetant ce qu'ils veulent. Et la deuxième, c'est de la donner à quelqu'un qui est dans le besoin. Et au moment où ils vont prendre cette décision, on les met dans des IRM cérébrales et on leur fait remplir un questionnaire de satisfaction lié au bonheur. Et bien, on s'est rendu compte que ceux qui vont donner cet argent vont avoir des zones du cerveau qui vont s'activer, celle de la générosité, mais aussi celle du bonheur. Et qu'à l'inverse, des structures responsables de l'angoisse qui vont être stockés dans l'amygdale, vont s'éteindre. Et à la fin, on se rend compte que les personnes qui donnent ont un niveau de bonheur et de satisfaction bien supérieur à ceux qui gardent l'argent pour eux.
Je suis sûre que les Danois donnent beaucoup, parce qu'elle a dit qu'ils faisaient beaucoup de bénévolat, c'était les champions du bénévolat. Donc, qu'est-ce qu'on doit donner? Parce qu'ils disaient, est-ce qu'on doit donner un rein? Est-ce qu'on doit donner des heures de bénévolat? Qu'est-ce qui marche, qui fait le plus de bon effet, on va dire?
Donnez ce que vous voulez,
d'accord.
En fonction de vos moyens et des besoins de certains. Et on s'est quand même rendu compte que le bonheur
et
était le plus important.
Ouais.
Si on donnait, par exemple, de l'argent à quelqu'un dont on sait qu'il est dans le besoin, lorsqu'on va directement aider quelqu'un, par exemple un SDF ou un proche qui est en manque d'argent, vous le donnez, le bonheur serait un peu supérieur que lorsque vous donnez de l'argent à une association caritative. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonheur. Ça veut dire que finalement, il se passe vraiment quelque chose de chimique et que donner fait vraiment du bien. Donc, donner en fonction de ce que vous pouvez.
Et pourquoi finalement ce bénéfice de don perdure tout le temps, hein, je crois, c'est ça ?
Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on vous offre un cadeau, vous êtes content.
Bah
mais
oui,
imaginez,
j'adore
Mélanie,
les cadeaux.
Tous les jours, vous mangez le plat que vous préférez. Je pense à une pizza, par exemple. Si tous les soirs, vous mangez de la pizza. Au bout d'un moment, on en a marre.
Bah oui.
Même chose pour sa chanson préférée. Au bout d'un moment, on est un peu blasé. Et en fait, il y a un effet qu'on appelle l'effet hédonique. C'est le fait qu'on épuise ce bonheur. On épuise en quelque sorte cette dopamine, sentiment qui n'existe pas lorsqu'on donne. La générosité ne s'épuise jamais. Les structures responsables du bonheur vont toujours s'activer dans notre cerveau lorsqu'on donne quelque chose.
Et est-ce qu'il y a une différence dans cette histoire de don entre les hommes et les femmes ? Moi, je suis sûre que les femmes, on est meilleures.
Eh oui, effectivement, elles sont meilleures. C'est la science qui le prouve. Le cerveau des femmes est plus sensible au partage. Et encore une fois, on a fait des IRM.
Et alors, si on est une femme danoise, alors là, c'est le maximum.
Ah ouais, c'est le must. Alors, on s'est rendu compte que donner va activer chez la femme le circuit du plaisir. Et il va aussi s'activer chez les hommes, mais lorsqu'ils font des actions dans leur propre intérêt.
Oh là là.
Ça veut dire, mine de rien, le plaisir de donner est supérieur chez la femme par rapport à l'homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est inné, c'est acquis. Ça veut dire que dans l'enfance...
On peut s'améliorer.
Exactement. On a conditionné peut-être les filles à donner un peu plus et les garçons à être égoïstes. Ça veut dire qu'il y a une piste
d'espoir.
Changeons
quelque chose avec
les
nos
neurones
enfants.
Des petits garçons sont aussi malléables et donc on peut les éduquer. Peut-être pour en faire une meilleure société.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy, pour cette mise au point très généreuse cet après-midi.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h pour cette dernière séquence de l'émission. Nous sommes rejoints en studio par Catherine Blanc, comme tous les jours. Catherine Blanc est sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va tenter de répondre à la question de Carmen, je vous la lis. J'ai entamé un régime depuis quelques semaines et je me rends compte que depuis ce moment, je n'ai littéralement plus aucune libido. Est-ce que ça pourrait être lié, Catherine ? Alors, baisse de libido et régime alimentaire, enfin, comment ça pourrait fonctionner? Parce qu'elle elle manque d'énergie peut-être, je ne sais pas.
Alors, bon, je crois qu'il peut y avoir plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas universel. Toutes les personnes qui vont faire un régime ne vont pas nécessairement se retrouver en difficulté de libido, d'autant plus que retrouvant du confort dans le corps, ça peut au contraire plutôt la booster. Mais avant cela, il faut réfléchir deux choses. D'abord, le fait que quand nous mangeons, nous prenons des micronutriments qui participent de la fabrication de nos neurotransmetteurs, notre dopamine qui est une sorte de starter pour tout ce qu'on a à faire. Pour peu que nous soyons un peu défaillants dans notre type d'alimentation, évidemment, on va avoir peut-être plus de mal à fabriquer nos neurotransmetteurs, nos hormones qui sont à l'origine justement de cet élan de désir. Nous allons économiser notre énergie puisque la sexualité nécessite quand même de l'énergie, même si ce n'est pas du sport de haut niveau. Ça peut l'être à l'occasion.
Maintenant, je ne parlais pas de moi, Jimmy. Ce n'est pas la peine de me regarder comme ça.
Si vous êtes prêt pour les Jeux Olympiques, tant mieux, Mélanie.
Ne sais pas, fait-elle un régime.
En tout cas, énergie, on manque de calories, de nutriments, et donc ça peut avoir un impact sur les hormones.
Oui,
ça,
et puis il y a aussi le fait que la sexualité, elle a besoin aussi d'une certaine agressivité, d'une certaine manière, dans la mesure où justement, tout ça est contrôlé, contenu, interdit. Eh bien là, on en vient sur l'aspect un peu plus psychologique. Dans la mesure où le goût, la gourmandise est punie,
les pulsions alimentaires
est contrainte, c'est un peu étiqueté comme étant coupable. Eh bien, c'est un peu comme si tout d'un coup il y avait un rétropédalage sur tout ce qui est pulsionnel, comme s'il y avait une confusion entre gourmandise alimentaire et gourmandise sexuelle, et que frustré ou obéissant à la frustration obligatoire du régime, et bien d'un seul coup, la sexualité faisait défaut elle aussi.
Ou peut-être que Carmen, comme elle commence à perdre du poids, elle se rend compte que son mari ne l'intéresse plus. Est-ce qu'il peut y avoir aussi
quelque chose...
Non, mais en se disant, bah voilà, maintenant, écoute, tu étais à mon goût, maintenant, tu ne fais pas d'efforts. Moi, j'en fais. Peut-être que la libido change. Est-ce que le rapport amoureux peut changer lorsqu'on perd du poids de façon un peu importante?
Ah ben là, on part du principe que donc le mari de Carmen serait lui en surpoids.
On ne sait même pas si Carmen est mariée, hein, mais elle dit qu'elle a plus de libido. Hein.
Bon, voilà. Mais en tout cas, effectivement, dans la mesure où l'un fait attention, l'autre ne le ferait pas, peut-être qu'effectivement, ça crée des tensions. Mais là, je crois qu'on extrapole sur des choses qui ne sont pas...
C'est gratuit. Je
pense que vous pensez à Carmen. Je ne sais pas qui est Carmen. Voilà. Et c'est pas parce que... Mais ce qui est intéressant, c'est de penser que quand les gens vont bien, comme si les couples pouvaient tenir sur des malentendus et que quand ils vont bien, finalement, ils prennent la poudre d'escampette. En tout cas, elle n'est pas prête de prendre la poudre d'escampette puisque manifestement, pour l'heure, sa libido n'est pas en rendez-vous, absolument.
Est-ce que c'est pas aussi parce que peut-être, donc, quand on fait un régime amaigrissant, puisque là je pense que c'est de ça qu'il s'agit, on n'est pas un peu devenu aussi obsessionnel, fixé, très concentré sur cette perte de poids, sur ce qu'on doit manger, etc. Et du coup, c'est difficile parfois d'être concentré sur plusieurs choses en même temps. La sexualité, ça peut demander une certaine concentration aussi, même si c'est du lâcher-prise.
C'est du lâcher-prise. Or là, le régime, c'est de la maîtrise. Alors évidemment, c'est une maîtrise qui régulièrement est bousculé par j'ai une envie de gâteau, j'ai une envie de sucre, j'ai une envie de chocolat ou que sais-je. Donc, je dois réprimer cette envie. Et donc, ça demande tellement d'énergie de réprimer l'envie que peut-être...
Ça supprime toutes les envies.
Toutes les envies passent à la trappe.
Mais on ne pourrait pas transférer cette pulsion d'envie du sucré vers une pulsion sexuelle pour essayer de compenser l'envie du petit chocolat par une petite partie de plaisir.
Alors, ce serait une très bonne idée dans le sens où, de toute façon, on fabriquerait des hormones puisqu'il y a le désir, la sexualité entraîne du plaisir, et qui dit plaisir dit de toute façon un bain de jouvence au niveau du cerveau et des fabrications hormonales. Ceci étant, évidemment, si la sexualité doit simplement être le remplacement du carré de chocolat, ça peut marcher. Hein, sur un malentendu, on peut faire des choses tout à fait intéressantes, mais on ne peut pas réduire non plus la sexualité à un remplissage en l'absence de gourmandise alimentaire qui se resterait toujours au niveau optimum préféré à la sexualité qui serait une occasion de remplacement.
Mais Catherine, est-ce que le cas de Carmen est inquiétant? Je veux dire, elle dit depuis quelques semaines donc un régime avec un impact apparemment important sur sa libido. Est-ce que vous pensez que une fois que le régime sera fini, hop, la libido va revenir? C'est aussi automatique que ça ou pas? Et est-ce que d'ailleurs c'est non, enfin je veux dire, c'est pas un peu inquiétant d'avoir une perte de libido comme ça pour perdre des kilos? Je sais pas si ça vaut le coup, quoi.
Alors d'abord, il y a pas d'angoisse à avoir une perte de libido de toute façon.
De temps en temps, ça peut arriver à tout le monde.
Oui, et puis là c'est à cause d'un régime, c'est à l'occasion d'un régime peut-être pour elle. Encore une fois, ça n'est pas une vérité pour chacun. Ceci étant, une fois qu'elle aura maigri, elle va se sentir bien dans sa peau et ça a tout lieu de relancer son désir, sauf si bien sûr elle s'était fortement carencée. C'est là qu'il faut être vigilant au type de régime que l'on fait, parce que tous les régimes ne sont pas nécessairement gens, ils cherchent une efficacité dans le but de perdre des kilos, mais pas toujours dans le respect du corps, faisant attention à ce que nous faisons.
Je ne trahis aucun secret, mais Mélanie consomme beaucoup de tisane au gingembre. Est-ce que, par exemple,
et du citron,
est-ce que le gingembre ou ce genre de choses pourrait aider à augmenter un peu
la libido ? Il cherche une solution du côté de l'alimentation.
En tout cas, certainement qu'il relance le côté chaleur du corps, le côté yang, diraient les Chinois. Ceci étant, je pense qu'il faudra manger des brouettes, surtout si par ailleurs, il y a trop de frustration. Mais sinon...
Pourquoi pas ? Allez, une petite tisane
au
gingembre.
En tout cas, ça réchauffe en plein hiver, c'est déjà
une
très bonne idée.
C'est Hugues, c'est danois. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, je sens venir, je le vois dans ma boule de cristal, une émission exceptionnelle.
Oui, oui. Et vous avez tout vu venir, surtout que vous avez choisi comme portrait moderne Paco Rabanne, qui a évidemment vu la station Mir s'effondrer sur Paris.
Et il avait dit que quelque chose allait nous tomber sur la gueule. Il savait que c'était la Covid. Non. Il pensait que c'était la station Mir.
Alors que moi, je vais vous présenter deux visionnaires de l'histoire, George Orwell et Charles Dickens. L'un avait vu évidemment la montée du populisme et du totalitarisme et l'autre, eh bien, les urgences sociales. Voilà.
Parfait, c'est un très beau programme.
Autant dire que Stéphane fait les mecs sérieux.
Ouais, vous
moi,
les bidons.
Les mecs bidons.
Non, moi je fais.
Ah, vous voulez qu'on appelle Paco Rabanne ?
Non.
Je fais surtout les morts et vous, vous êtes les vivants.
C'est notre répartition.
Allez, très bien, on sera à l'écoute évidemment avec le docteur Jimmy Mohamed et vous aussi, je vous le conseille, restez sur Europe 1.